Bah c'est parti.
Le Sonolab.
Le Sonolab.
Sonolab.
Le laboratoire sonore de Jet.
Des ateliers sur mesure pour questionner, comprendre, écouter et pratiquer avec le son.
Sonolab.
Et engagé.
Frida Kahlo,
Cindy Sherman,
Mystique,
Nikki de Saint-Phal,
Marjane Satrapi,
Camille Claudel.
Un podcast réalisé
par les élèves de
3ème A.
Collège Frida Kahlo.
Portrait de Mystique.
Pas, je me déclare. Oui, je me suis fait un nom, Mystique. Une nuit au pied du mur, j'ai refusé les yeux ouverts, ce que d'autres acceptent, les yeux fermés. Je m'appelle Radia Novat, je suis née le 20 février 1956 à Paris. Je suis une artiste de street art, je graffe au pochoir avec une touche de poésie sous le pseudonyme Mystique, en référence à la méchante sorcière moqueuse dans Picsou. Mon objectif est que mon art soit à la portée de tous.
Quand elle avait 10 ans, Radia avait pour projet de devenir danseuse. Mais suite à un accident de voiture, elle n'a pas pu poursuivre son rêve et est devenue gauchère obligée. Tandis que sa grand-mère, son frère et sa mère sont décédés.
Elle est une fille d'un immigré tunisien qui est mort d'une crise cardiaque quand elle avait 16 ans. Il était ouvrier et sa mère était paysanne.
J'ai découvert l'art de rue pendant mon voyage aux États-Unis. Le pays de la liberté d'expression. À cette période, je me cherchais beaucoup. J'ai ramené ce cadeau pour vous, faire découvrir le graffiti. L'art de ces murs, l'art éphémère, celui qui nous appartient tous.
En fait, l'idée, je ne l'ai pas toute seule. Elle me vient de ce que je vois à ce moment-là dans les rues parisiennes. Où en fait, à l'époque, c'est des étudiants des Beaux-Arts qui se mettent à peindre des murs, des palissades et des supports urbains. J'ai aussi vu quelques années auparavant la naissance du hip-hop aux États-Unis, donc des graphes.
Son engagement lui a coûté cher. Elle a eu des problèmes avec la justice, car le tag est considéré comme une détérioration. Son arrestation, pour ce motif, en 1997, lui vaut une amende. Ça a également été difficile pour elle de s'imposer en tant que femme artiste dans le street art.
Le monde de la rue est plus souvent dominé par les hommes. Elle veut toucher les passants en exposant la poésie à la portée de tous. Mais ses graphes sont éphémères, elle laisse chaque personne interpréter à leur façon ses œuvres. Mystique apprécie le côté éphémère dans le street art, non présent dans les musées, les galeries ou encore les lieux privés. Cela laisse un moyen de communiquer et de s'interroger sur la société actuelle dans les années 1990, dans laquelle l'égalité homme-femme n'est pas encore acquise et comprise. Le droit de vote n'est accepté que depuis 45 ans pour les femmes.
Son œuvre « Je t'aime tant », créée en 2015, fait avec encre aérosol sur toile de lin naturel, mesure 73 par 92 cm. Sur sa toile, Mystique se représente comme la femme idéale, avec une robe décolletée, moulante, rouge et sexy. Elle se tient debout, elle a les cheveux détachés. Son regard est fixe, son expression sur son visage la rend confiante. La particularité de sa citation
« Je t'aime tant »
est que « tant » est écrit « T-E-M-P-S » et pas « tant » « T-A-N-T », ce qui lui fait faire allusion à la durée de l'amour.
Quand on regarde son œuvre, il y a un côté impressionnant de pouvoir exprimer ce qu'on ressent en public. Elle a l'air à la fois timide et confiante. Sa phrase laisse à réfléchir. Elle a plusieurs significations, car on pense tous différemment.
Cela montre l'engagement de Mystique dans son art et dans sa vie.
Son parcours d'une quarantaine d'années n'a pas été de tout repos. Mystique a rencontré beaucoup d'obstacles dans sa carrière. Quand elle sort graffer, elle est toujours accompagnée d'un homme, car rester seule dans les rues la nuit n'est jamais sûr pour une femme.
On n'est ni de droite,
ni de gauche.
On est dans la merde.
Tout achevé.
Sauf le désir.
artiste et engagé.
Frida Kahlo,
Cindy Sherman,
Mystique,
Nikit Saint-Phal,
Marjane Satrapi,
Camille Claudel.
Un podcast réalisé
par les élèves de
3ème A.
Collège Frida Kahlo. Portrait de Camille Claudel.
Connaissez-vous Camille Claudel, cette célèbre sculptrice du 19e siècle, celle qui a vécu dans l'ombre de son frère Paul Claudel et de son mentor Auguste Rodin.
Les Claudel, cette famille composée de deux artistes grandioses, l'un est un écrivain dramaturge et surtout un homme libre de vivre sous la lumière des projecteurs. Son nom est Paul Claudel, très reconnu pour la pièce de théâtre Le Soulier de Satin. L'autre est une femme sculptrice freinée dans la reconnaissance de son art indépendant. Elle se nomme Camille.
Née le 8 décembre 1864, Camille va au monde à Ferrantard de Noix. À cette période, les femmes devaient se battre pour vivre en tant que telles et non en tant qu'objets. Par exemple, elles étaient employées sans pour autant être déclarées. Camille est née au sein d'une famille bourgeoise de Provence et elle est morte le 19 octobre 1943, à l'âge de 78 ans, dans l'asile psychiatrique de Mondevergue, en Avignon.
Les enfants Claudel sont élevés dans un cercle familial fermé et tendu. Selon Paul, leur père, Louis Prosper, était un homme de caractère rude mais aimant et attentif à l'éducation de ses enfants. Sa mère, Louise Athénée Cerveau, au contraire, était du matin au soir occupée aux tâches ménagères. Paul se souvient.
Jamais un moment pour penser à elle,
ni énormément aux autres.
Elle ne nous embrassait jamais.
Malgré leur éducation stricte et froide due aux valeurs de leur foyer, le travail, l'effort, l'économie, l'honnêteté et le sens du devoir, Camille et Paul ont maintenu une bonne entente.
Comment devient-elle sculptrice ? À 12 ans, Camille, pourtant d'un âge précoce, découvre son don pour la sculpture en utilisant de la glaise trouvée dans une caverne.
Comment apprend-elle ? Camille montre pour la première fois ses sculptures à l'âge de 12 ans à son père qui reste très troublé par cette vocation. Il va alors demander l'avis de son ami sculpteur de haute renommée, Alfred Boucher, qui va régulièrement rendre visite à ces derniers pour approfondir l'apprentissage de Camille. Boucher va les prier de venir à Paris afin que Camille puisse parfaire son art.
En 1881, les Claudel vont finalement s'installer à Paris pour que Paul ait l'opportunité de continuer des études supérieures. Pendant ce temps, Camille suivra des cours de sculpture à l'Académie de Paris. C'est à l'automne 1882 que Boucher va demander à son ami Auguste Rodin de prendre la relève sur l'apprentissage de Camille.
Rodin est très vite séduit par le caractère et le travail exceptionnel de sa nouvelle élève. En 1884, elle entre dans son atelier comme praticienne et devient vite sa collaboratrice, sa maîtresse, puis son modèle et sa muse. Ils travaillent en harmonie.
L'année de ses 18 ans, elle va quitter sa famille pour rejoindre Rodin. C'est à cette période qu'ils vont être les plus proches.
Au printemps 1886, elle fait un séjour en Angleterre. À son retour, elle va exiger de Rodin de signer un contrat pour qu'il n'accepte aucune autre élève qu'elle, ce qu'il va refuser. Rodin était également marié à son ancien modèle, Rose Beuret, et malgré l'insistance de Camille, il refusera obstinément de renier ce mariage.
Comment est-elle considérée par la société de l'époque ?
Il faut savoir qu'autrefois, les femmes n'étaient pas considérées comme artistes. Ce n'était pas un métier pour elles. Elles devaient trouver des ateliers qui les acceptaient, ce qui était rare. Et bien qu'elles y soient admises, un surplus monétaire était exigé, ainsi que des heures supplémentaires de travail. Camille était sculptrice. Or, ce métier était réservé aux hommes. De plus, cette jeune femme ne faisait que du nu, chose inconcevable pour la société du 19e siècle. Camille était donc en dehors des limites.
Ce qui montre également ses performances extraordinaires en sculpture, c'est que les femmes ne pouvaient pas se servir de modèles vivants. Elles devaient se contenter d'esquisses et d'autres sculptures de leurs compères masculins. Camille sculptait afin de changer ce point de vue très sexiste.
La jeune femme sculpte aussi pour le plaisir. En effet, lors de la conception d'une de ses œuvres les plus connues, la petite châtelaine, créée en 1896 au château d'Azay-le-Rideau, sur les bords de la Loire. Le modèle Marguerite Boyer a été pris en affection pour la jeune femme. L'enfant était alors âgé de 6 ans et demi. Marguerite apprend à poser grâce à la patience dont elle a dû faire preuve pour permettre à Camille de la figer dans la pierre.
Avec la bonne volonté du modèle et la promesse d'obtention d'une poupée à la fin de la création, le travail de Camille s'acheva assez rapidement.
La petite châtelaine varie selon les différentes versions de la sculpture. Une fois, son buste arbore une tresse lors de la conception avec du plâtre patine marron. Une autre fois, elle a les cheveux détachés. Cette œuvre-ci a été réalisée en marbre. La jeune Boyer a le visage enfantin et la ressemblance entre l'œuvre et le modèle est frappante.
Camille commença à exposer en 1882. Très vite, le public reconnut son talent. Mais Rodin était toujours derrière leurs pensées. Il était impossible qu'une femme puisse faire des sculptures si éblouissantes. L'Auguste Rodin devait forcément l'aider dans les finitions de ses œuvres. Cela allait de soi. Camille était une âme sensible. Au début, le public pensait que tout son travail était toujours fini par Rodin. Mais il y a toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était en 1893.
Dès lors, Camille commença à créer des œuvres, des plus sombres. On y inclut l'âge mûr. Cette sculpture montre un homme âgé. C'est une représentation de Rodin, enlevée par une vieille femme tout sourire, qui pourrait être Rose Beret, la femme de Rodin.
Camille se montre en tant que jeune femme, essayant vainement de rattraper l'homme. Mais déjà, la distance les sépare. Lors de la création de cette œuvre, Camille s'était déjà renfermée sur elle-même. Elle vivait cloîtrée chez elle, avec ses chats, et malgré ses tentatives pour vendre des œuvres, son déclin noircissait sa réputation, et chacune de ses propositions était refusée. Pour elle, Rodin était le responsable.
Écoute, Camille, ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité.
Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture! Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire!
Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre.
Mais tu m'as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout!
Or, ce dernier ne débordait que d'amour et de passion pour elle et lui envoyait des lettres de rétablissement et d'encouragement. En 1906, l'artiste commence à détruire ses moulages, ses bonhommes de cire. Elle en atteste dans la lettre qu'elle envoie à Henriette Thierry vers 1912.
Je prends mon marteau et j'écrabouille un bonhomme.
Elle cite elle-même.
Je vis dans un monde si curieux, si étrange. Du rêve que fut ma vie, ceci est le cauchemar.
En 1911, ses conditions de vie dégradèrent sa santé. C'est en 1913 que son père mourut. Sa mort signa sa fin. N'étant pas au courant du décès, Camille n'assista pas aux obsèques.
C'est en 1913, 9 jours après la mort de son père, qu'elle se fait interner dans un hôpital psychiatrique de force. D'abord par sa mère, car comme son père l'a toujours soutenue, Camille n'était plus sous sa protection. Puis, quand la matriarche rejoignit les morts à son tour, c'est Paul Claudel, son frère, qui s'éleva contre l'idée de la faire sortir, malgré sa folie.
C'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'étais enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle. J'ai été internée d'abord à Villévrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Montevergue, près d'Avignon. Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'ai été arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons.
Il faut savoir que vers les années 1900, les asiles pratiquaient des expériences, comme les premiers tests d'exposition à des radiations, et d'autres fois, des essais aujourd'hui interdits, tels que la lobotomie ou la diathermie, ce sont des chocs électriques. Les patients les plus agressifs se retrouvaient isolés de tous et pouvaient être maîtrisés par des coups, tout comme par ligotage sur des chaises spécialisées. Camille a vécu durant 30 ans dans un milieu froid, peu accueillant et lugubre, esselé et maltraité, la faute venant de sa propre famille.
C'est le 19 octobre 1943 qu'elle meurt de faim à cause des restrictions de la guerre de 39-45, miroir d'une déchéance féminine.
En tant que femme au 21e siècle, je pense que je ne pourrais pas faire ce que Camille Claudel a fait, car j'aurais eu trop peur du regard des autres. Camille est une femme très courageuse, car pendant la moitié de sa vie, elle s'est battue pour pouvoir faire de la sculpture, qui était considérée comme un métier d'homme. Elle s'est battue également pour pouvoir exercer sa passion sans être dans l'ombre d'un homme.
C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.